BFM Business et La Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, on est de retour pour la seconde partie de l'émission. Il est 10h passé de 1 minute. Vous êtes toujours en direct sur BFM Business et les experts avec Christian Poyot, cofondateur et CEO de Micropole Groupe Talent, Céline Antonin, économiste à l'OFCE, et Ludovic de Sauté, directeur délégué de la rédaction de La Tribune. On va revenir ensemble sur cette rencontre entre le commissaire européen au commerce extérieur, Marcos Sefcovic, qui a reçu hier à Bruxelles le ministre chinois du commerce, Wang Wentao. L'Union européenne et la Chine qui ont dit vouloir intensifier leurs discussions pour tenter de résoudre gentiment, à l'amiable, les tensions commerciales qui, elles, sont de plus en plus vives entre les 27 et Pékin. On va écouter tout de suite le commissaire européen nous débriefer cette réunion.
L'écart se creuse. Les exportations chinoises vers l'UE ne cessent d'augmenter, tandis que notre part de marché en Chine ne cesse de diminuer. Cette tendance n'est pas tenable et le statu quo n'est pas une option. L'UE reste ouverte aux échanges commerciaux, mais nous devons défendre notre industrie et continuer à œuvrer en faveur de conditions de concurrence équitables à l'échelle mondiale, afin que nos industries puissent rivaliser à armes égales.
Bon, on voit que ça se tend, hein, Céline Antonin, entre l'Union européenne et la Chine. Il y a de quoi. Je vous le disais en introduction, plus d'un milliard de déficit commercial par jour, désormais, entre la Chine et l'Union européenne. Je pense que la canicule, avec l'augmentation des cadences de production des climatiseurs chinois là, qui voient le marché européen en grand besoin, ça risque de s'aggraver encore à l'avenir.
Oui, tout à fait. Bon, on sait que c'est devenu l'usine du monde. Et puis, il y a cet effet que mes collègues du CEPI appellent le second choc chinois, c'est-à-dire qu'avec l'instauration des droits de douane aux États-Unis, en fait, l'Europe est devenue aussi un peu le déversoir de certains produits chinois. Alors, l'idée, c'était que si l'Europe arrivait à les réexporter à son tour, ça pouvait être bénéfique, mais en fait, c'est pas le cas. Donc, on reçoit la concurrence des produits chinois sans qu'on arrive, nous, à être un hub d'exportation. Donc voilà. Donc, on a perdu.
Donc, la déferlante est réelle.
La déferlante est réelle. Et justement, je voulais en profiter pour revenir un petit peu sur la manière dont l'Europe a géré cette relation avec la Chine et l'erreur stratégique qu'elle a commise. Moi, je travaille en ce moment sur la question de l'Allemagne, de la mutation du secteur automobile, de la crise du secteur automobile.
Modèle économique allemand.
Voilà. Et de la transition électrique et de ce qui se passe avec la Chine. Donc, avec ma collègue Sandrine Levasseur, on est en train de publier un papier sur ça. Et justement, donc en fait, ce qui c'est pour le dire de façon très synthétique, l'Europe a quand même cru au marché. Donc on a cru à la politique de concurrence plus qu'à la politique industrielle, alors que la Chine a construit une véritable politique industrielle. Donc pendant 20 ans, avec des subventions à la R&D, avec un marché intérieur qui était quand même assez protégé, des plans quinquennaux. Enfin bon, tout ça, on sait. Et par exemple sur la production automobile mondiale, elle est passée de 8% à 41% de la production automobile mondiale en l'espace de 20 ans. Donc c'est dire quand même le bon.
4 voitures sur 10 produites autour de la planète aujourd'hui sont des voitures chinoises.
Exactement, voilà, sont produites par la Chine.
Alors, c'est spectaculaire.
Tout à fait. Donc, alors, en fait, les industriels européens, ils ont financé leurs futurs concurrents. On l'a vu avec les co-entreprises. Les entreprises allemandes, elles ont beaucoup délocalisé en Chine. Alors, au début, elles regardaient la rentabilité à court terme. Et c'est vrai que ça leur a été très profitable, hein, Volkswagen, etc. ont vraiment profité de ça. Mais en réalité, les Chinois ont quand même incorporé ce savoir-faire. Et ils sont passés devant l'Allemagne en 2023, sont devenus le premier exportateur, donc devant l'Allemagne. Et en fait, justement, ce choc est automobile quelque part. Il révèle réellement, et c'est pour ça que j'en parle, ce retard européen, parce qu'en plus, les groupes chinois, ils ont cet avantage d'être totalement intégrés de la batterie jusqu'à l'aval de la chaîne, alors que nous, on a un modèle en Europe et les Allemands, exactement, très fragmenté, des choses qui sont produites dans certains pays, et puis nous qui faisons la partie finale, enfin qui sommes juste à un bout de la chaîne. Donc ça, c'est aussi un vrai problème. Et donc, je pense que au-delà des chiffres, il y a une vraie bataille qui se fait, qui est doctrinale, sur la manière dont on conçoit notre politique industrielle, sur le fait que ce n'est pas qu'une politique de concurrence. Et là, je pense qu'il y a un revirement à faire à 180 degrés par rapport à ce qu'on a eu en tête. Donc, pour vous dire en gros, trois points qu'il faut avoir en tête. Oui. Je pense qu'il faut vraiment être capable d'articuler cette politique industrielle avec la politique de concurrence, chose qu'on n'a pas du tout fait.
Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire plus de politique industrielle?
Oui, tout à fait. Ça veut dire que ne pas avoir peur d'avoir des champions champions, enfin au moins européens, et ne pas sans arrêt se tirer une balle dans le pied, en fait, en disant on est les chantres de la libre concurrence, certes, mais il faut quand même avoir une politique industrielle, et parfois ça impose d'avoir aussi une préférence pour l'Europe et pour le ski européen. Donc voilà, c'est ce que font les autres
blocs. Préférence européenne et quoi, douane massif autour de, c'est ce que proposait Thomas Grébin, hein, dans un rapport du plan, par exemple, Christian Poyot puis Ludovic.
Je pense pas qu'on ait, enfin, je suis d'accord avec ce que vous dites, hein. Je pense pas qu'on ait tant manqué de politique industrielle, mais plutôt de clarté et de réalisme par rapport au marché. Parce que le sujet, c'est qu'on a cru qu'on était dans un marché où tout le monde était fair.
Oui, tout le monde jouait les.
Il y avait des règles, il y avait l'OMC qui allait.
Ah bah, on a vu que l'ouverture de la Chine à l'OMC.
Voilà, enfin, donc un peu
l'entrée de la Chine dans l'OMC n'a pas changé.
Mais c'est vrai que c'était une politique industrielle qui, du coup, était quasiment inexistante, parce que dès qu'on voulait mettre la moindre. Enfin, je veux dire, par exemple, le fait de subventionner une entreprise plutôt que d'autres. Ça, c'est interdit par les traités et c'est normal. En revanche, si vous voulez subventionner une filière pour créer des champions européens, par exemple dans l'IA, bah, rien ne vous l'interdit. Et je veux dire, et
mais c'est pas tant subventionner, enfin, encore une fois, je n'ai pas de désaccord de fond, hein, mais c'est pas tant de subventionner que dire on est face à des gens qui ne respectent pas les règles.
Pas les règles, voilà. Par ailleurs.
Donc
par
il ne faut pas se dire on va faire ça parce que ça a fonctionné de telle manière où c'est très joli, on va pouvoir arbitrer, et si c'est pas bien, c'est pas comme ça. Ça n'existe pas.
Les Chinois, et donc ça veut dire quoi? Qu'il faut qu'on arrête les règles, nous aussi.
Mais il faut faire comme les Chinois. Il faut passer son temps à dire, on est là pour respecter les règles, le libre-échange, c'est ce qu'ils disent en permanence. Ouais. Et puis, il y a ce qu'ils disent, puis il y a ce qu'ils font. Mais il faut faire la même chose. Il faut continuer à dire, on est pour les règles, on va être à l'OMC et compagnie. Puis derrière, on fait totalement différemment. Mais c'est ce que font les Chinois. Enfin, faut arrêter d'être naïf sur le sujet. Voilà. Et donc, il faut faire comme eux. Donc, une politique industrielle, mais une politique industrielle en ayant une vision claire de quelles sont les règles internationales. Sachant, finalement, il n'y a pas de règles, si j'ose dire.
Bah, c'est la loi du plus fort.
Voilà.
Hein.
Donc, faut c'est ça, assez simple. Politique industrielle, et vision claire de quelle est la nature du marché et, sans règles.
Et également une vision comme l'on... Alors moi, je veux dire, je ne suis pas du tout un conditionnel de la Chine, hein, je veux dire, mais là, par exemple, la question du plan, de la planification...
Ah, une planification, plan, oui, ça c'est clair.
Ils ont encore décidé de leur plan 2026-2030. Nous, on est encore en train de se demander est-ce que 2035, on arrête ou pas les véhicules électriques. Enfin, je veux dire, dans un monde d'une telle incertitude, vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas investir, il faut qu'il y ait de la clarté pour investir. Donc ça, c'est aussi un problème. Il faut qu'il y ait un cap. Et ça, c'est malheureusement ce qui nous manque.
Ce que souligne Céline, à mon sens, c'est important. Alors, c'est parce que là, c'est finalement une lecture un peu dans le temps, historique, et c'est clair que l'Europe a une responsabilité coupable, hein, dans la séquence, parce que si la Chine s'est industrialisée, c'est parce qu'on s'est désindustrialisé aussi. Hein. Donc, on va pas se mentir. Enfin, il y a eu des choix, il y a eu des orientations, à la fois de l'État, mais aussi d'entreprises. Volkswagen est, le cas d'école. Hein. C'est-à-dire, quand Volkswagen annonce qu'on va probablement licencier 100 000 salariés pour s'adapter au monde qui vient, on voit bien l'erreur stratégique d'un groupe qui était numéro un mondial.
Je rappelle que l'industrie automobile européenne, c'est 13 à 15 millions de salariés. Ouais. J'ai plus chiffré une quinzaine de millions de salariés. Hein.
En tout cas, c'est au-dessus de 10 millions.
C'est massif.
Profondément, moi, ce qui m'inquiète à la fois, c'est à quelle vitesse on aura ce changement de logiciel de la part de Bruxelles, finalement, de se dire, en fait, attention, parce que les États-Unis ont déjà changé le jeu, à nous aussi de changer le jeu, en fait. On est entré dans une nouvelle séquence. Après, en profondeur, ce qui est, je trouve inquiétant, c'est que quand on parle de 1000 milliards par jour, tout ça, on n'est plus dans la notion de guerre commerciale. C'est une dépendance.
Un milliard par jour, on va pas mettre 1000 milliards par jour parce que ça nous fait.
On n'est plus dans une logique de guerre commerciale, à savoir si les ampoules, les je sais pas quoi sont produits. Ça devient de la dépendance stratégique. C'est plus la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans plein de domaines, des médicaments, de la chimie, de l'énergie et autres, la question n'est même pas de savoir si les Chinois ou pas font du dumping et tout ça. C'est qu'on n'en fait plus. On est en notion de dépendance. C'est ça qui est plus grave, à mon avis. Et c'est ça le fond du débat sur lequel il faut qu'il y ait un réveil européen. Parce que on rentre dans un monde qui est fragmenté. Et si demain, on n'a plus accès à certaines molécules pour les médicaments, l'histoire, elle n'est plus de savoir si on va mettre des taxes de 10 ou 20%. L'histoire, elle va savoir où vont les médicaments.
Ouais, mais Ludovic, pourquoi on a fait ça? Parce que c'était moins cher.
Oui, mais la dépendance stratégique,
c'est un gain de pouvoir d'achat de 1500 euros par français, hein, les produits chinois.
Mais la dépendance, là, on a atteint un seuil qui est maintenant, j'insiste lourdement là-dessus, ce n'est plus une guerre commerciale, on est dans une logique de dépendance stratégique. Et attention, ce n'est plus le même jeu, c'est plus la même partie.
Je suis, mais mille fois d'accord avec ça. Finalement, on a fait ça et par naïveté, et parce qu'en même temps, bah, c'était notre confort à nous. On avait beaucoup de choses pour beaucoup moins cher et notre confort, etc. Voilà. Et puis en même temps, et là c'est particulier à France, on travaillait de moins en moins, on refusait la réforme des retraites, enfin les 35 heures et toutes les âneries qui ont été faites pendant les années. Voilà. Donc le changement de paradigme, il est dire effectivement, il faut qu'on soit beaucoup plus dur vis-à-vis des Chinois dans un bras de fer qu'eux assument complètement.
C'est la question que j'allais vous poser. La Commission vient de présenter un paquet de durcissement des relations commerciales avec la Chine. La grande question, c'est est-ce que les chefs d'État et de gouvernement vont s'en emparer, auront le courage d'aller à l'opposition frontale avec la Chine, quand on sait qu'on est dépendant, notamment sur les terres rares, par exemple.
On peut considérer que ça bouge quand même. Les Allemands, qui sont le premier moteur économique de l'Europe et qui étaient des très bons exportateurs, enfin qu'ils sont encore, mais enfin ça a sensiblement baissé, ont quand même bougé de position par rapport à ça. Mais le paradigme de ça, c'est que être dur, c'est très bien, et puis après, il faut se dire, bah, ok, donc ça aura un impact sur le pouvoir d'achat des Européens, hein. faut pas se cacher. Les médicaments sont vraiment un sujet dramatique, hein, parce que les composants essentiels des médicaments, enfin je ne suis pas du tout pharmacien, sont manifestement fabriqués en Chine. Comme vous le disiez, Raphaël, demain c'est en Europe, ça va coûter plus cher. Voilà. Oui. Donc il faut qu'on arbitre entre les choses. Mais il faut le faire. Enfin, pour le coup, c'est crucial, vital. Enfin, je ne sais pas quel terme faut utiliser.
Il faut aller à la confrontation.
Je pense qu'il y a des choses qui me paraissent de bon sens. Mais par exemple, quand on a effectivement fait un certain nombre de co-entreprises avec l'Allemagne, avec la Chine, effectivement, il y a eu un transfert de technologie qui a été fait. Je veux dire, le minimum, c'est demander de la réciprocité, de ne pas accepter.
Non, mais c'est l'une des réponses à Bruxelles, c'est-à-dire venez les investissements chinois aussi. Ils ont augmenté
10% l'année dernière. Il va y avoir là
il faut du transfert de technologie, que les salariés soient européens et qu'il y ait des co-entreprises, c'est-à-dire que vous investissez.
Et le problème, c'est que tous les pays vont sans doute être en rivalité pour attirer les investissements chinois. Donc, c'est pas dit que tous les pays s'alignent sur le même standard.
On n'arrive pas à le faire, salut Ludovic, en Europe.
On a du mal à le faire, mais en plus, il y a une question de timing, c'est-à-dire que on se réveille là. Enfin, on va dire l'Europe se réveille grâce à Trump. Presque, j'allais dire. Non, mais honnêtement, c'est-à-dire que finalement, c'est un effet, c'est un peu un coup de billard à trois bandes. C'est-à-dire, c'est le fléchage dont parlait Céline à l'instant. C'est-à-dire, OK, il y a eu un reroutage, on va dire, des flux commerciaux vers l'Europe, donc on se réveille. Mais on se réveille un peu tardivement. C'est comme la taxe des petits colis. C'est-à-dire que on se réveille sur les petits colis une fois que les centres-villes ont tous tiré le rideau dans toutes les boutiques, dans toutes les villes françaises moyennes. C'est-à-dire que, en fait, le mal est fait en profondeur. C'est-à-dire que c'est pas juste une question d'usage, d'habitude et tout ça. C'est-à-dire que quand on se réveille, j'allais dire, Poissy est à l'arrêt, les centres-villes une à une, les enseignes ont fermé boutiques. Donc il est temps de se réveiller sur les coups d'après. C'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire que là, le mal est profond dans certains domaines. Il y a encore d'autres domaines sur lesquels il faut qu'on se réveille. Il y a un dossier, j'attends un peu qu'il monte, c'est les chaînes de production d'Airbus en Chine. Parce qu'il y a un véritable chantage. On l'a découvert il y a deux mois, c'est que les livraisons d'Airbus ont été bloquées en Chine, puisque la Chine commence à faire un chantage pour que ses propres avions soient reconnus en Europe. Donc,
Comac.
Alors, et bloque du coup les chaînes de production et livraisons d'Airbus en Chine. On y va tout droit sur l'aéronautique. On va refaire le piège.
Il faut assumer le bras de fer. Je voudrais juste faire une parenthèse, si vous le permettez, sur la taxe des petits colis. Je ne sais pas si vous avez suivi le truc.
Qui change. Demain, elle est annulée. C'est la taxe européenne qui prend la suite à 3 euros.
Débat, mais on a instauré cette taxe de 2 euros tout seul en Europe 6 mois avant tout le monde. Et ça devait rapporter 400 millions. Au résultat, tous les colis, ils ont été à Bruxelles. Et au final, ça a rapporté 5 millions. Enfin, rien, quoi, grosso modo. Et on devait même, sur la taxe européenne, rajouter les 2 euros. Alors là, on s'est dit, bon, finalement, non, on va retirer les 2 euros. Mais quels sont les fonctionnaires au sens large qui ont pondu, ou les politiques qui ont pondu ce genre de truc? Enfin, on tape la tête sur les murs. C'est ridicule, franchement. Enfin, excusez-moi cet aparté, mais enfin, qui est assez...
Et juste pour revenir sur la question du pouvoir d'achat, effectivement, il faut accepter de payer plus cher. Mais après, ça rentre aussi dans un débat plus global sur la quantité versus la qualité de ce qu'on fait aussi. Donc, il y a aussi toute une réflexion sur le produire mieux et produire de qualité et de façon plus durable. Et puis, de manière générale, certes, on peut gagner en pouvoir d'achat à court terme, mais qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus d'emplois en France? Enfin, je veux dire, donc il y a quand même aussi une question sur notre souveraineté et sur le fait que, effectivement, maintenir l'emploi, ça a aussi une vertu en termes de pouvoir d'achat.
Non, mais je reviens sur le point qu'évoquait Ludovic là, sur les avions. C'est un bras de fer, mais ce n'est pas un bras de fer qui va s'arrêter demain. On a l'impression de dire, bon, on va trouver le bras de fer, puis on va trouver l'équilibre. Mais non, mais ça va être comme ça pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Quoi. C'est une confrontation économique et on espère qu'elle s'arrêtera là entre les États d'une manière générale. Donc sur les avions, aujourd'hui, aujourd'hui, ils ne savent pas produire les moteurs, quand même, les Chinois. Hein. Je veux dire, ça, ils n'en sont pas à ce niveau-là, quoi, si j'ose dire. Donc, effectivement, ils veulent imposer la certification. Ben, il faut dire non, il faut résister par rapport à ça. En même temps, si on bloque.
Mais on ne sait pas faire ça en Europe, Christian.
Mais on va apprendre. On va apprendre que si les chaînes de production d'avions ne sortent pas en Chine, qu'est-ce qu'il y a ? Ben, il va y avoir moins d'avions pour Air China et compagnie. Et c'est eux qui les utilisent le plus. Donc, vous voulez bloquer les chaînes ? Ben, allons-y, on bloque les chaînes. Ben, pas de problème. Vous n'avez plus d'avions, vous les achetez chez nous. Enfin, je dis ça, c'est peut-être un peu simpliste, mais il faut avoir la volonté de faire du bras de fer avec les Chinois.
Devenir un
c'est...
peu plus carnivore et un peu moins herbivore, ce que disait Emmanuel Macron.
Et puis c'est vrai que c'est même pas une question de revenir, par exemple, parce que effectivement la critique, c'est de dire le libre-échange a montré ses limites, il faut revenir à une forme de protectionnisme. C'est même pas ça, parce que même si on reprend la théorie économique, dans la théorie des avantages comparatifs, vous avez quand même l'idée que chaque pays se spécialise là où il est bon. Oui. Sauf que nous, maintenant, on a l'impression qu'il y a plus beaucoup de domaines dans lesquels on arrive à montrer qu'on est bon, puisqu'on se désindustrialise un peu dans tout. Donc c'est là que, enfin, je veux dire, on a quand même quelques cartes à jouer. Et sur ces domaines-là, il faut qu'on ait vraiment une stratégie industrielle forte. Enfin,
je vais faire un parallèle sur les avions avec le SCAF. Hein. Oui. Tout le monde a suivi le match.
L'avion de défense européen.
Dassault a fait un bras de fer. Dit non, je ne céderai pas. C'est moi qui ai la compétence pour faire les avions de sixième génération et c'est indiscutable. Et donc je ne céderai pas mes assets, enfin mon savoir-faire, ma technologie à d'autres acteurs, même s'ils sont européens. Voilà. Donc il faut. Alors le comparatif vaut ce qu'il vaut, mais il faut savoir avoir ce genre de position. Moi, encore une fois, acteur du verre à moitié plein, je pense que l'Europe, ça y est en train de bouger. Après, on est un vieux continent, il y a 27 pays, etc., etc. En face de nous, on a 1 400 000 000 de personnes qui, bon, voilà. Mais on peut, ça bouge. Pas suffisamment vite, mais ça bouge.
Oui, je suis d'accord avec Christian, ça bouge. La question, c'est l'alignement des 27 et notamment, historiquement,
l'Allemagne.
C'est-à-dire que l'Allemagne malheureusement, a tout le temps été à contre-temps sur ces dossiers-là, historiquement, que ça soit sur le gaz russe, que ça soit sur l'automobile aujourd'hui. C'est-à-dire que toujours cette ambiguïté le nucléaire et tout ça, de regarder...
Parce que même sur l'automobile, effectivement, alors qu'ils sont quand même confrontés, touchés de plein fouet, ils en sont encore à vouloir ne pas appliquer en 2035.
Avec l'espoir d'avoir encore accès au marché chinois et finalement de se faire laminer, on va pas se mentir. L'Allemagne qui a énormément pesé sur ce que vous évoquez, qui est Céline un instant sur le fait de bouger le calendrier de la fin de l'automobile thermique et tout ça. C'est-à-dire que, évidemment, tout ça, c'est des mesures, mais en fait, c'était des occasions de reformater une industrie. C'est-à-dire de se dire, en fait, c'est pas juste changer l'habitude des gens. C'est juste se dire, il y a une rupture à jouer. Elle a été très mal accompagnée, tant au plan industriel qu'au niveau des primes qui ont varié, qui ont été arrêtées, relancées et tout ça. Donc, c'est très, très compliqué de faire évoluer un marché. Mais il y a un moment, on est rentré dans une période de rupture à la fois économique, climatique, énergétique et ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a beaucoup de mots en hic dans ma phrase. Non, mais la réalité aussi, c'est que par rapport à ça, il faut avoir de l'ambition. C'est-à-dire, c'est autant de lianes qui passent pour jouer la révolution suivante. Et là, en Europe, on est encore malheureusement sur beaucoup de dossiers en train soit de se désaligner, soit de se dire ouais non mais attendez le virage, on va le négocier à une vitesse plus réduite parce que vous comprenez tatati tatata. Alors que en fait, on a l'occasion de jouer le coup d'après. Il y a un énorme coup à jouer aujourd'hui sur la robotique humanoïde qui est le coup d'après. Soit l'Europe se dit mobilisons-nous. Plutôt que d'aller se battre sur les panneaux solaires sur lesquels c'est trop tard.
C'est trop tard, c'est un vrai sujet.
Et j'ai peur que sur les robots humanoïdes, ce soit déjà trop tard et moi aussi quand on voit les images qui sortent de Chine.
Non. Ne nous laissons pas abuser par les vidéos où on voit des robots chinois, etc. C'est comme des drones. Donc je dis pas que
c'est
OK, c'est sympa, mais c'est pas ça qui fait les choses. Les robots qui sont en place maintenant chez Renault sont complètement différents de ça. Voilà. Et donc là, on a effectivement un coup à jouer. Alors on maîtrisera pas l'ensemble de la chaîne de valeur parce qu'il faudra des chips, faudra des jeux, etc. Mais l'intelligence pour ces robots-là, on peut faire des choses sur le sujet. Voilà.
Allez, il nous reste une petite dizaine de minutes ensemble. Il est 10h passé de 19 minutes. Vous êtes toujours sur BFM Business, les experts. Je voulais qu'on parle un petit peu de l'effondrement de valeur refuge. L'une, oui, l'or, très clairement. L'autre était quasiment considéré comme une valeur refuge à un moment pendant la crise. On voit que c'est vraiment plus le cas aujourd'hui. L'once d'or qui a connu son pire mois depuis 2008. Et le Bitcoin, je voulais qu'on en parle ensemble, Céline Antonin, le Bitcoin qui a perdu 50% depuis son plus haut d'octobre. Qu'est-ce qui se passe ?
Alors, qu'est-ce qui se passe ? Beaucoup de choses. Donc, il vous aura pas échappé qu'il y a une tension au Moyen-Orient, donc une incertitude politique qui ne profite pas, effectivement, enfin, en tout cas, qui ravive l'aversion au risque et donc qui ne profite pas au Bitcoin. Il y a également la politique monétaire restrictive de la Réserve fédérale américaine, qui effectivement, donc avec une augmentation des taux d'intérêt, ça aussi c'est pas favorable à la valeur Bitcoin. Alors de manière générale, on a de toute façon des investisseurs institutionnels qui se sont détournés des crypto-actifs de façon plus large. Et puis en fait, ce qui se passe aussi, c'est que même au niveau institutionnel, on voit quand même qu'il y a une réaction européenne assez forte. Par exemple, donc un des acteurs Binance qui n'a pas obtenu son agrément, justement,
la certification MiCA
qui lui aurait permis d'opérer dans l'Union européenne. Et donc ça montre aussi que la Banque centrale européenne a quand même cette volonté de réglementer ce qui se passe sur le territoire. Et donc ça aussi, ça douche un peu l'appétit pour les cryptos, les stablecoins, donc notamment. Donc tout ça contribue effectivement à ne pas faire des cryptos une valeur.
Stablecoins, ça bouge pas tellement. Puis
tout à fait. Mais c'est vrai que le fait que justement le fait qu'on ait une volonté d'institutionnalisation et que même sur les stablecoins versus les monnaies numériques de banque centrale, on voit quand même que les autorités sont quand même assez vigilantes. Mmh. Ça joue pas en faveur, disons, des crypto-actifs.
Oui,
notamment.
Donc ça veut dire que cette baisse, elle est durable?
Comment?
Ça veut dire que cette baisse est durable?
Alors bon, ça c'est toujours difficile
à prévoir.
L'effet
de mode est passé et que maintenant...
C'est toujours difficile à prévoir parce que comme c'est un actif numérique qui est ultra spéculatif, on ne sait pas ce qui peut se passer, qui peut en faire remonter. Mais en tout cas, je trouve qu'au contraire, ça joue dans l'idée que ça reste quelque chose de très spéculatif. Donc ce qui est quand même l'argument qu'on développait dans notre ouvrage. Donc
oui.
Et donc que ce n'est pas du tout une valeur refuge comme on aurait pu l'entendre.
Je pense qu'on peut vraiment comparer l'or au Bitcoin, hein, grosso modo. Alors il y a une différence que l'or, on le touche, quoi. On peut avoir sa pièce.
C'est du concret.
De son Napoléon son placard, j'en sais rien. Mais sinon, c'est globalement la même chose. Hein. Encore une fois, il y a un volume limité, c'est contrôlé, etc. Donc, maintenant, c'est pas encore rentré dans l'esprit des gens. Je pense que, on n'est plus en France où on se dit, bon, tiens, il y a des risques, donc je vais acheter de l'or et puis je vais le cacher dans ma cuisine, si je veux dire. Mais je pense qu'on peut comparer les deux. Simplement, on n'est pas encore rentré dans une logique de dire, pour moi, ça devrait être corrélé, voilà, pour dire entre guillemets, enfin corrélé, pas de manière légale, hein, mais dans l'esprit des gens, c'est la même chose. J'ai besoin d'une valeur refuge, je prends l'or ou je prends le Bitcoin de manière générale. Mais
la différence, c'est quand même la valeur intrinsèque, c'est-à-dire que l'or, ça repose
sur un actif tangible,
concret, connaît pas le Bitcoin, parce que la valeur du Bitcoin, c'est zéro en fait, fondamentalement.
Oui, mais
alors c'est vrai qu'il y a
vous retombez sur le point de dire parce que d'un côté je l'ai physiquement, donc il y a de l'or matière physique palpable, de l'autre côté j'ai rien, c'est que des zéros et des uns, quoi.
Alors qu'il y a une matière précieuse malgré tout, donc il y a une valeur, disons, qui s'appuie sur autre chose que purement l'offre, enfin il y a l'offre et la demande, mais là, je suis d'accord avec vous que s'il n'y a plus de demande pour l'or, à ce moment-là la valeur
je suis persuadé que dans le temps, pour essayer de répondre à la question de Raphaël Legendre, dans le temps le Bitcoin va rester et restera comme une valeur refuge, mais aujourd'hui il est d'une volatilité qui est beaucoup plus forte que l'or.
Ludovic.
Mais je pense que, je vais prendre le débat à l'envers, c'est-à-dire que je pense qu'on se pose un peu la mauvaise question, c'est pas tant pourquoi il y a cette baisse, mais c'est où va l'argent en ce moment. Pense que c'est plutôt cette lecture.
Il y a eu un petit effet de vase communicant, effectivement.
À mon avis, c'est plus cette mécanique, c'est-à-dire que, on est dans des cycles sur l'or. Finalement, il y a une forme un peu de banalisation du Bitcoin qui est en train de rentrer, de se mettre dans les mœurs. Mais là, l'appel d'air, ce qui est en train de purger les marchés, c'est l'IA, surtout. On va pas se mentir. C'est-à-dire que là, même pour des gens qui jouaient la crypto et des choses comme ça, aujourd'hui, avec l'IPO de SpaceX, peut-être demain ChatGPT et ainsi de suite, il y a tout un revirement. L'argent est refléché, on va dire, sur le Nasdaq et consorts, et ça, clairement, ça purge. Donc, je pense que c'est ce mouvement sur lequel on est en train de voir. L'année dernière, l'or avait atteint des très très hauts niveaux dans un contexte mondial de dégradation, de tension, un peu de
et de rachat des banques centrales.
Et de rachat des banques centrales.
Vous avez totalement raison.
Il y a eu cette question de dédollarisation ou pas du monde. Enfin bon, les grandes mécaniques et tout ça. Là, l'appel d'air, que ce soit, on en parlait un instant sur la Corée et l'appel d'air des marchés, c'est que tout le monde veut monter en TGV de l'intelligence artificielle.
Et, oui.
Et ça, c'est ça.
Et l'or, c'est facile à vendre avoir du dollar.
Ça, c'est le vecteur numéro un. C'est en train de purger, honnêtement, d'assécher beaucoup d'entreprises, à tel point que même maintenant, tout le monde essaie de communiquer, de faire un tant soit peu d'IA, même Valeo, même Schneider Electric. Enfin, tout le monde essaye de mettre un peu d'IA dans ses communiqués de presse, parce que c'est la seule façon d'avoir un cours de bourse qui progresse aujourd'hui, quoi. Donc c'est très très honnêtement.
Schneider Electric, c'est logique.
Oui, mais je provoque un peu. Mais c'est comment aujourd'hui il faut faire partie de l'histoire.
Oui, mais c'est vrai.
Oui. Puis bon, la politique de la réserve fédérale, en ce moment, à mon avis, joue vraiment un rôle important.
Alors expliquez-nous, parce qu'effectivement, il y a au sujet hausse des taux d'intérêt aux États-Unis et jugulation de l'inflation.
C'est-à-dire
comment ça impacte tout ça?
Ça rend le dollar attractif, donc du coup, vous préférez avoir du dollar, vous préférez investir en dollar qu'avoir du bitcoin ou avoir de l'or, en fait. Enfin, a priori, c'est de cette manière que ça joue. Alors effectivement, après, il y a toute la question de l'inflation, mais comme c'est une inflation qui est en grande partie importée.
Donc, plus les taux d'intérêt sont élevés, plus l'or a tendance à baisser.
A priori, oui, on a une corrélation historiquement qu'on vérifie, quoi.
Oui.
Donc, voilà. Et c'est vrai que ce qui se passe, c'est qu'avec cette question d'inflation, mais qui est quand même essentiellement une inflation importée, c'est assez compliqué pour les banques centrales de se positionner, parce que en général, c'est vrai que ce contre quoi vous voulez lutter, c'est l'inflation interne. C'est l'inflation qui est liée au fait que vous avez trop de demandes par rapport à l'offre.
Oui. Voilà. Donc, et on a la BCE qui vient d'augmenter ses taux à un moment où l'inflation redescend.
Quoi que vous fassiez, ça va rien faire dans le détroit d'Ormuz. Hein. Enfin, je veux dire, a priori, les banques centrales n'ont pas encore ce pouvoir. Enfin, pas encore. Donc voilà. Donc, c'est en ça que c'est compliqué. Et c'est toujours la question de quand est-ce que cette inflation importée se transforme après en inflation interne. Bon, et pour l'instant, on n'en est pas, enfin, on n'en est pas encore là, quoi. Donc c'est
on va surveiller ce qui se passe à Sintra. Hein. Il y a nos amis de la Banque Centrale. Christine Lagarde en parlait hier, essayait de justifier la hausse de taux.
Ouais. Oui, je vous dis.
Un peu à contre-temps. Bon.
Oui. C'est cette histoire en plus de enfin, nous économistes, c'est vrai qu'on travaille pas mal sur la question de la courbe de Phillips. Donc le fait
rappelez-nous,
que c'est l'arbitrage entre chômage et inflation, si vous voulez. Donc l'idée que quand vous avez trop d'inflation, effectivement, enfin quand vous avez beaucoup d'inflation, vous avez une moins de chômage. Enfin voilà, et vice versa, c'est-à-dire que quand vous avez, enfin, il y a une corrélation négative entre les deux. Et la question, c'est que vraiment, ça, c'est sur l'inflation importée, donc enfin l'inflation interne. Et j'insiste. C'est-à-dire que c'est pas une matière première qui coûte plus cher, un choc pétrolier.
Ça, c'est
la
un
banque
choc
centrale
de prix,
ne va
ça
rien
pas
faire.
De
voilà, absolument.
C'est
et ça, c'est
différence.
Vrai que c'est compliqué parce que de séparer les deux effets, ça reste quelque chose de très compliqué. Et je pense que vraiment les banquiers centraux sont face à cette incertitude. Comment on fait? Parce que en même temps, leur mandat, par exemple pour la Fed américaine, c'est non seulement la stabilité des prix, mais
l'emploi.
L'activité économique
et
l'emploi. Donc
en termes de résilience, moi j'ai quand même été marqué aussi par le fait que le cours du pétrole n'avait pas augmenté autant qu'on le pensait.
Ah oui, $115 maximum.
Enfin, on parlait de 150.
Merci les réserves.
$200, etc. Il y a un papier dans les Échos qui est intéressant aujourd'hui.
Merci sur
comment la Chine a réussi
à
gérer
absolument,
le sujet.
Bien
ça, c'est assez intéressant.
Oui, tout à fait. Et puis c'est vrai que là aussi, les amitiés ou inimitiés entre pays ont fait que certains flux continuaient à fonctionner. Enfin, c'est en ça que c'est...
L'homme est résilient.
L'homme est résilient, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois. Christian Poyot, Céline Antonin et Ludovic de Sauté.